31 août 1987. Dans la forêt de Molalla, près de Portland, dans l'Oregon, un chasseur repère un beau point de vue et fait une macabre découverte.
Les fougères sont roussies, visiblement mortes. Il s'avance, enlève les fougères mortes et le cadavre est là.
Le premier d'une longue série.
Un a conduit à deux, puis trois, quatre, cinq, six et sept. Le plus étrange était l'état des pieds des cadavres. Certains avaient même été complètement arrachés.
Les sept victimes ont été ficelées et la plupart mutilées. Le tueur est un mécanicien de 33 ans du nom de Dayton Leroy Rogers.
Après avoir violé et tué des femmes, il retournait tranquillement à sa petite vie de famille ordinaire. Et ceci était tout simplement lié au fait qu'il n'éprouvait aucun remords.
Rogers est déjà en garde à vue. Des témoins l'ont vu poignarder brutalement une femme sur un parking, trois semaines plus tôt.
Il mutilait ces femmes pendant qu'elles étaient vivantes et qu'elles le suppliaient, hurlant de douleur aux sévices qu'il leur infligeait.
Dayton Leroy Rogers, surnommé le tueur de la forêt Molalla, peut avoir son nom gravé sur notre liste des pires criminels au monde. août 1987. Dayton Leroy Rogers est arrêté pour le meurtre de Jennifer Smith sur le parking d'un restaurant familial. Pour la police, c'est une affaire rondement menée. Elle est loin d'imaginer que Rogers est un tueur en série et que Jennifer est sa dernière victime en date. La découverte, quelques semaines plus tard, de sept femmes assassinées dans la forêt Molalla va révéler toute l'horreur dont ce criminel est capable. Scott Ely a travaillé sur cette affaire en tant que procureur.
Dayton Leroy Rogers, en l'espace d'environ 2 mois et demi, a tué au moins 8 femmes dont nous sommes certains.
Après avoir étudié le dossier, Scott Ely a pu dresser le portrait de l'homme qui a croisé leur route.
Dayton Leroy Rogers est le parfait exemple du sociopathe typique. Ces gens-là sont principalement centrés sur eux-mêmes, ne pensent qu'à leurs besoins, leurs désirs. Ils prennent ce qu'ils veulent au moment où ils veulent, peu importe ce qu'il faut faire pour l'avoir. Et c'est l'escalade dans la violence. Il a fini par tuer plusieurs femmes brutalement après les avoir torturées d'horribles manières, parfois pendant des heures.
Dayton Leroy Rogers est né à Moscou, une ville de l'Idaho, le 30 septembre 1953. Il est issu d'une famille de 7 enfants, dont les parents sont Ortiz et Jasper L.
Son père avait une vision très rigide des femmes et du sexe. Pour lui, une femme qui avait des relations sexuelles avant d'être mariée était ni plus ni moins une prostituée. Vous avez donc très vite une dichotomie qui émerge entre l'image de la Madone, votre mère vertueuse, qui est là pour vous nourrir, s'occuper de vous, et de l'autre côté, la putain, à savoir toutes les autres femmes. Une vision très manichéenne, sans la moindre nuance. Vous êtes une femme honorable ou pas?
Le père de Dayton était agressif. Il usait de la violence avec tous ses enfants, avec l'argument classique « c'est pour votre bien que je fais ça ». Le problème, c'est que ça a nourri une rébellion chez Dayton Rogers.
Jeune collégien, il inaugure sa carrière criminelle en tirant à la carabine sur des voitures et commence à repousser les limites. En pleine adolescence, il commence à s'intéresser au sexe opposé.
Il a grandi dans une famille très conservatrice, très religieuse, où les femmes de la famille, ses sœurs, devaient porter des tenues couvrant tout le corps. Les pieds étaient alors les seules parties du corps qu'il pouvait voir. Et il en a fait une vraie fixation.
Il épiait ses sœurs quand elles se déshabillaient. Il a fait une fixation sur leurs pieds, sans doute qu'il devait se masturber en les regardant.
En 1972, Rogers a 18 ans. Il est peintre en bâtiment et vient de se marier avec une jeune fille qui a 2 ans de moins que lui. Très vite, il recherche des satisfactions sexuelles en dehors de son couple.
Il roule dans les environs de la ville d'Eugene. Lorsqu'il prend en stop une jeune fille de 15 ans, ils finissent par s'adonner à des ébats sexuels dans un champ.
Rogers dépose la jeune fille chez elle et lui demande s'il peut la revoir le lendemain.
Ils retournent dans le même champ, font leurs petites affaires comme la veille. Il fait beau, ils regardent le ciel, papotent, et là, sans raison apparente, il lui plante un couteau dans le ventre. Elle se redresse et s'agrippe au couteau. Elle le regarde et elle raconte avoir vu ses yeux noirs comme le charbon, complètement perdu dans le vague. À ce moment-là, elle comprend du haut de ses 15 ans que les paroles qu'elle va prononcer vont décider de son sort, de sa vie.
Rogers explique à la fille qu'il l'a poignardée parce qu'elle ne l'aimait pas.
Et elle le regarde droit dans les yeux. Elle veut sauver sa peau. Et elle dit, « Non, je t'aime. Pourquoi dis-tu que je ne t'aime pas, Dayton ?» Et elle lui dit, « Parce que tu as un petit ami. » Elle ne le connaît que depuis la veille, mais elle réussit à le convaincre de la porter dans la voiture, puis de l'amener à l'hôpital.
Rogers est inculpé pour cette agression violente. Mais au lieu d'être envoyé en prison, on le place en liberté conditionnelle pour 4 ans. Cela lui donne tout le temps d'explorer ses fantasmes sexuels.
C'est un peu comme s'il sortait de sa chrysalide. Il se métamorphose, malheureusement, en quelque chose de terrifiant.
Il commence à développer des fantasmes de violence sur les femmes, de viol aussi. C'est le genre de choses qui l'excite sexuellement. On retrouve les valeurs inculquées par son père. Les hommes sont supérieurs, les femmes sont inférieures. Les hommes ont le droit de faire ce qu'ils veulent avec les femmes.
En 1976, alors qu'il est toujours en conditionnel pour l'attaque au couteau, Dayton Leroy Rogers décide de réaliser ses sombres fantasmes. Il repère 2 lycéennes.
Elles ont 15 et 16 ans. Elles marchent sous la pluie. Elles ont séché les cours. Il s'approche d'elles et les invite à monter.
Il les pousse à boire de l'alcool, à fumer de la marijuana. C'est très révélateur pour moi. Il veut qu'elles soient à blâmer pour la violence qu'il va leur infliger. Il veut que les gens puissent dire après, elles l'ont bien cherché.
Il se gare, il tombe des cordes dehors, et la voiture finit par s'embourber. C'est important pour la suite. Mais pour l'instant, ils parlent, boivent, il a l'air vraiment gentil, amical. Et soudainement, son comportement change. Il bascule d'un coup, ouvre la boîte à gants et en sort un couteau.
Sous la menace de son couteau, Rogers ligote les 2 adolescentes.
C'est un sadomasochiste. Ce qui l'excite sexuellement, c'est la violence, pas forcément le contact sexuel. Il en viole une sous les yeux de l'autre, toujours en les menaçant avec son couteau. Bien sûr, elles sont terrifiées. Puis, il finit par réaliser que la voiture est embourbée. Et il décide de couper leurs liens pour qu'elles poussent la voiture. Bien évidemment, elles en profitent pour s'enfuir.
Dayton Leroy Rogers n'est pas accusé de viol. Seule la contrainte physique est retenue contre lui. Mais n'ayant pas respecté sa liberté conditionnelle, il ne peut pas échapper à la prison. 5 ans plus tard, il sort et récidive. Il enchaîne les viols avec violence et les peines de prison. Relâché en 1982, il semble déterminé à tourner la page.
Rogers a donné le sentiment de marcher dans le droit chemin. Il s'est remarié, a eu un enfant, s'est impliqué dans l'église baptiste du coin.
Avec son beau-père, il monte une entreprise de réparation de matériel de jardinage, métier qu'il a appris en prison. L'atelier a vite du succès.
Il donnait l'impression de faire ce qu'il était censé faire. Mais il y a toujours un entretien à la fin de votre conditionnel. Dès que vous avez réussi cet entretien, vous passez la porte et vous êtes totalement libre. La juge d'application des peines lui a demandé, « Rogers, avec votre expérience aujourd'hui, y a-t-il des choses de votre passé que vous referiez différemment ?» Et il est resté assis, en la regardant droit dans les yeux, et a répondu, « Oui, à l'avenir, j'agirai différemment, car la prochaine fois, je ne laisserai pas de témoin. » Elle a dit, « Mon Dieu, je ne peux plus rien faire. Il vient de terminer sa conditionnelle. »
Auparavant, Rogers avait laissé ses victimes s'en sortir. Une erreur qu'il n'allait plus commettre. Le 7 août 1987, à Portland, il est 3 heures du matin lorsque les clients d'un restaurant ouvert toute la nuit entendent les bruits d'une altercation dehors. On entend des hurlements, quelqu'un crie au viol du côté du parking du restaurant. Un habitant de Portland s'est arrêté pour prendre un chocolat chaud avant de rentrer chez lui.
Deux types sont arrivés en disant « Il se passe un truc là-bas ». Tout le monde s'est précipité dehors et moi aussi. J'étais curieux. Je n'ai même pas pris le temps de prendre la rampe d'accès. J'ai poussé sur mes roues et en sortant, je n'ai vu que le dos des gens, leur nuque. Puis j'ai regardé par terre et je l'ai vue, elle, complètement déshabillée. Elle ne criait plus, ne bougeait plus. J'ai tout de suite pensé, je dois faire quelque chose.
La victime a 25 ans. Elle est mère de 2 enfants et s'appelle Jennifer Smith. Il est clair qu'elle vient d'être attaquée au couteau. Charles vient de suivre une formation au premier secours et veut aider.
Son cœur ne battait plus. Elle avait une profonde entaille à la gorge. Avec une autre personne, on a commencé les premiers gestes de réanimation cardio-pulmonaire. Moi, la respiration et lui, le massage cardiaque. Et on a essayé d'arrêter les saignements, car il y avait du sang partout.
Dans l'affolement général, personne ne remarque un homme montant dans son pick-up.
J'étais concentré sur les premiers secours quand j'ai vu ce pick-up sortir à fond de train du parking. Il a failli nous passer sur les pieds. Je me suis dit que ça devait être lui. Puis j'ai vu une voiture partir à sa poursuite.
Un témoin a repéré cet homme et, avec courage, se lance à la poursuite du pick-up. Quelques minutes plus tard, une ambulance arrive et prend en charge Jennifer.
Je n'avais qu'une seule pensée en tête à ce moment-là. Est-ce qu'elle va vivre? Est-ce qu'elle va s'en sortir? C'est la seule chose qui m'importait.
Alors que Jennifer est transportée à l'hôpital, l'inspecteur Jim Strovink est réveillé par son téléphone.
Tout ce qu'on a pu me dire, c'était qu'il s'agissait d'une femme, victime d'un viol et de coups de couteau. Sur la scène de crime, c'était la panique. Les secours étaient au sol avec leur matériel. Il y avait du sang partout. Beaucoup d'indices.
L'agresseur a pris la fuite dans l'urgence, laissant des éléments de preuve un peu partout sur le parking.
Un expert de la police scientifique était avec nous. Il a trouvé une preuve sous un buisson. Il a trouvé le couteau qui avait été jeté sur la scène de crime. Il a également réussi à trouver d'autres éléments de preuve, dont des lacets et une chaussure de tennis. Juste une.
La fouille minutieuse de la scène de crime révèle enfin des mignonnettes de vodka et du jus d'orange, qui s'avéreront plus tard déterminantes.
Tous les témoins devaient être interrogés sur le champ. J'en avais la responsabilité.
Les témoins possèdent des informations cruciales, mais le témoignage le plus attendu est celui de l'homme qui a pris le pick-up en chasse.
Il est tombé en panne d'essence pendant sa course-poursuite avec le véhicule suspect. Mais il avait pu aller jusqu'à Oregon City. On a eu de la chance, car la lumière de la plaque d'immatriculation ne marchait pas. Mais lui a pu se rapprocher et la lire.
Cette information est une mine d'or pour Jim et son équipe. Elle pourrait bien les mener directement chez l'agresseur de Jennifer.
On a pu obtenir le nom du propriétaire du véhicule. Il s'agissait de Dayton Leroy Rogers, résidant entre le secteur sud du comté de Clackamas et le secteur nord du comté de Marion. Deux agents ont été dépêchés sur place.
Aucune trace du véhicule du suspect. Lorsque les agents frappent à la porte, Sherry, la femme de Rogers, vient leur ouvrir.
Sherry leur a dit que Dayton Rogers travaillait, du moins était censé travailler dans son atelier de Hubbard.
Les policiers se rendent immédiatement à l'atelier de mécanique de Rogers et préviennent le procureur adjoint, Andreas Eglitis.
J'ai pris une voiture avec mon enquêteur et nous sommes partis à l'atelier à Hubbard. L'inspecteur Turner était déjà sur place. Comme il savait que Rogers pouvait être le gars qu'on cherchait, il a posé la main sur le capot du pick-up garé devant. Il était bouillant. Le moteur venait de chauffer sérieusement. En arrivant à l'atelier, il a remarqué quelques gouttes de sang sur le pas de la porte. Il a regardé par la fenêtre et vu Dayton Leroy Rogers avec une scie à métaux, en train d'essayer de couper un boulon. Il avait la main bandée.
L'inspecteur interroge Rogers sur ses déplacements dans la soirée.
Je n'ai pas bougé d'ici, mais votre pick-up est chaud. Oh, je suis allé me prendre un café. Mais vous avez une machine à café, là, et elle est en marche. Qu'avez-vous à la main? Oh, je me suis coupé en découpant un boulon. Et voilà, il n'en a pas fallu plus. On était sûr de tenir notre type. Et l'inspecteur Turner a dit, vous êtes en état d'arrestation. Je l'ai vu se faire menotter. Et je ne sais pas pourquoi, à ce moment-là, je me suis dit, cette affaire n'a rien d'ordinaire. Il y a un truc différent.
Malgré tous les efforts des témoins et de l'équipe médicale, peu après son admission à l'hôpital Emmanuel, Jennifer Smith, 25 ans, est déclarée morte. Si l'enquête en cours va dans la bonne direction, il est sûr que Dayton Leroy Rogers est bien son meurtrier.
En surface, Rogers mène une vie ordinaire avec femme et enfant. Mais sous la surface, se trame une histoire bien plus sombre. Il rentre chez lui, dîne avec Sherry et leur fils, puis il ressort. Sa femme pensait qu'il avait tellement de travail qu'il passait une grande partie de la soirée à l'atelier, puis rentrait chez lui mort de fatigue, tombant de sommeil, puis qu'il repartait travailler à l'atelier. Ce qu'elle ignorait, bien sûr, c'est ce qu'il faisait vraiment pendant ces nuits. Il ressortait avec son pick-up et partait à la chasse dans les quartiers chauds de Portland. Il était assez connu dans le milieu des prostituées du quartier. Elle l'appelait Steve le Flambeur. Il se présentait comme un joueur assez riche, conduisant un pick-up pourri. Elle montait avec lui.
Afin de nourrir ses enfants, Jennifer Smith avait fini par se prostituer. Elle a eu la malchance de tomber sur Dayton Leroy Rogers cette nuit du 7 août.
Une autre prostituée l'a vu monter dans le pick-up. Il l'a conduite jusqu'au parking mal éclairé d'un petit immeuble de bureau, pas loin du restaurant Denny's. Il a commencé à la taillader au couteau, après l'avoir ligotée avec des lacets. Il l'a tailladée encore et encore. Elle a réussi à sortir du véhicule, défaire ses liens et à courir nue et sans chaussures à travers le parking.
Jennifer tente désespérément de fuir Rogers. Elle hurle aussi fort qu'elle peut. Son appel au viol est entendu et plusieurs personnes accourent pour venir à son secours. Malheureusement, Rogers arrive avant eux.
Un témoin a pu suivre tout le déroulement. Depuis sa fuite du pick-up, pour échapper à Rogers sur le parking, jusqu'à ce qu'il soit sur elle. Puis, l'arrivée de deux témoins répondant à ses cris.
Il a couru à l'arrière de l'immeuble. Il est monté dans son pick-up, puis est parti en trombe. Il a même roulé sur le trottoir dans sa fuite.
Dayton Leroy Rogers, 33 ans, est inculpé pour meurtre avec circonstances aggravantes, à savoir viol, enlèvement et torture. Les enquêteurs doivent maintenant réunir toutes les preuves pour le procès.
Peu après sa garde à vue, il a appelé son beau-père depuis la prison du comté de Clackamas. Il a demandé à ce dernier, qui se trouvait à ce moment-là dans l'atelier, « Père, ils ont regardé dans le poêle à bois ?» Le beau-père lui a dit « Je sais pas. Pourquoi ?» Et il n'a pas répondu.
Les policiers ont remarqué que le poêle était allumé la nuit où ils ont arrêté Rogers.
Qu'a fait le beau-père de Dayton ? Il a pris ce qu'on appelle un aimant à vache, un aimant en forme de gélule de 10 cm de long. Le poêle à bois est encore chaud. Il ouvre la porte du poêle et plonge cet aimant dans les cendres. Et oh, surprise, que ramène-t-il au bout de son aimant ? Des attaches de soutien-gorge, assez pour environ 15 soutiens-gorge. Il trouve des pièces métalliques qui s'avèrent venir de la chaussure faisant la paire avec celle retrouvée sur le parking. Très serviable, il a mis tout ça dans un sac en papier craft qu'il a donné à la police comme preuve. Et on est parti de ça.
Rogers est derrière les barreaux. Les enquêteurs peuvent souffler. Le meurtrier de Jennifer est déjà arrêté. Ils ont tout le temps nécessaire pour monter un dossier contre lui pour le procès. Ils sont loin d'imaginer que 3 semaines plus tard, à 50 km de là, dans la forêt de Molalla, un homme est sur le point de faire une macabre découverte.
On n'était pas loin de l'ouverture de la chasse aux cerfs. Vous avez ce chasseur qui veut trouver un bon endroit où se mettre en embuscade pour avoir toutes ses chances. Il inspecte les environs, il voit un tas de fougères roussies. Toutes les fougères autour sont d'un beau vert fougère. Et là, elles sont marron, visiblement mortes. Il connaît bien la nature. Il s'avance et enlève les fougères mortes et il tombe sur un cadavre.
Le chasseur rapporte aussitôt sa découverte à la police. L'agent Jim Strovink est envoyé sur la scène de crime le lendemain matin à l'aube.
On a commencé les recherches et en déplaçant tous les débris qui recouvraient le cadavre, on a découvert un deuxième cadavre. Je me souviens qu'on faisait une pause pour déjeuner. Je marchais dans les environs et il y avait un tas de broussailles pour lequel j'ai trouvé une autre victime. Ça faisait 3 cadavres. C'est là qu'on a vraiment réalisé qu'on avait affaire à un meurtre de masse.
Il manque un pied à la première victime, et la deuxième n'a plus de pied. Ils ont été sciés juste au-dessus de la cheville. Les 3 victimes sont nues.
Plus on avançait dans notre enquête, plus il devenait évident qu'il fallait traiter la scène comme un site archéologique. On a quadrillé la zone par carré de 10 mètres sur 10, chacun portant une lettre. Puis, on a ratissé chaque carré au coude à coude pour collecter chaque élément de preuve. Tout ce qui n'était pas une plante était ramassé et enregistré. On a trouvé des mignonnettes de vodka et d'autres choses qui sont devenues des éléments clés de l'enquête, des liens, ce genre de choses. Le corps numéro 4 a été découvert au nord-ouest de l'emplacement initial. Et un autre corps a été découvert après celui-là.
En début de journée, il n'y a qu'un seul corps. En fin de journée, il est clair qu'il s'agit là de l'œuvre d'un tueur en série sadique. On compte désormais 5 corps à différents stades de décomposition.
Le plus révélateur a été la découverte des pieds, car la plupart des victimes avaient eu les pieds coupés.
Le procureur adjoint Andreas Eglitis se rend à nouveau sur la scène de crime.
L'odeur était épouvantable, car les corps étaient en état de putréfaction. Et quand on les déplaçait, l'air se chargeait de cette odeur qui s'élevait. Après quelques jours d'enquête, deux des inspecteurs, Turner et Machado, avaient la nausée avec cette odeur. L'un a dit « Mike, allons fumer une cigarette ». Ils ont marché 300 à 400 mètres sur une route de terre. Turner était sur le point d'allumer sa cigarette et « Tu sens ça, Mike ?» Ils étaient à 5 mètres d'un autre cadavre.
La forêt entière était une scène de crime. Et ça a été un travail de fourmi de couvrir toute la zone. Mètre carré par mètre carré. On a fait appel à tous les gens qu'on pouvait. Les scouts, les shérifs suppléants. On a fait venir tout ce qui respirait pour participer aux recherches.
Le nombre de victimes augmente et la police doit maintenant mettre un nom sur ces pauvres femmes. La tâche risque d'être difficile.
Il fallait identifier sans l'ombre d'un doute ces personnes. Les visages étaient dans l'ensemble méconnaissables. Des parties du corps manquaient. Les pieds manquaient.
Pendant que la forêt est fouillée de fond en comble en quête de victimes et de preuves, le 7 septembre, une semaine après la sinistre découverte du chasseur, le premier cadavre est identifié comme étant celui d'une travailleuse du sexe de la région.
Lisa Marie Mock était mariée. Le couple avait des problèmes d'addiction. Ils avaient donc un mode de vie un peu chaotique. Mais par moments, elle voulait sortir de cet engrenage. Son père a raconté qu'elle avait trouvé un poste de secrétaire, qu'elle avait son appartement, sa voiture. Elle avait presque réussi.
Lisa, 23 ans, était sur le point d'hériter d'une belle somme qui aurait pu changer sa vie. Le deuxième cadavre découvert est identifié, dans un premier temps par ses tatouages distinctifs, et sera ensuite confirmé par le dossier dentaire.
Il lui avait coupé les deux pieds. À ses yeux, elle n'est ni plus ni moins qu'un objet à découper, humilié, déshumanisé. C'est la partie du corps qui a le plus de valeur, selon lui.
Le tueur semble avoir un mode opératoire bien précis. Les victimes sont ligotées, tuées, puis amputées d'un ou des deux pieds, à l'exception de l'une d'entre elles.
Le cadavre dont la putréfaction était la moins avancée était celui d'une femme dénommée Noni Cervantes. Elle était unique car ses pieds n'avaient pas été coupés. Par contre, elle avait été ouverte du pubis au thorax et totalement vidée de ses intestins.
Nanda Cervantes, ou Noni, avait 26 ans. Son corps a été éviscéré.
C'est particulièrement violent, radicalement différent de ce qu'il avait fait aux autres victimes. J'y vois une sorte de mépris tout à fait particulier pour cette victime. Il y a quelque chose dans ce meurtre qui le distingue des autres. Peut-être que cette jeune femme lui a opposé plus de résistance. Peut-être qu'elle ne correspondait pas assez à la femme soumise, ce qui l'a rendue fou de rage.
Dans l'Oregon, on n'avait encore jamais eu une affaire d'une telle ampleur. La fouille de cette immense scène de crime va durer 9 jours et mobiliser 200 personnes. Au final, 7 corps de femmes sont retrouvés et plus de 500 éléments de preuve, dont certains familiers, sont récupérés.
C'est vite devenu évident. De nombreux indices trouvés dans la forêt Molalla était similaire à se trouver sur la scène de crime de Jennifer Lisa Smith.
Près des corps dans la forêt, on a retrouvé des tas de mignonnettes de vodka. On a également trouvé des mini-bouteilles de jus d'orange et aussi un couteau. Du même modèle et de la même marque que le couteau retrouvé derrière l'immeuble de bureau dans l'affaire Jenny Smith.
On ne peut éliminer personne. On avait des milliers de pistes et d'indices, mais tout pointait invariablement en direction de Dayton Rogers.
Une fois de plus, Rogers est le suspect numéro 1. Jennifer Smith et les 7 victimes retrouvées dans la forêt Molalla prouvent qu'il est responsable du meurtre d'au moins 8 femmes. Sur les 7 corps de la forêt, 6 ont pu être identifiés. Comme Jennifer, ce sont toutes de jeunes travailleuses du sexe. Le procureur adjoint Eglitis se retrouve en charge de 2 enquêtes croisées.
Après la découverte des corps dans la forêt Molalla, plusieurs femmes ont appelé le bureau du shérif en disant « Je suis une prostituée. J'ai eu un client qui m'a amené dans la forêt Molalla. »
Des travailleuses du sexe qui, jusque-là, avaient eu peur de parler, ont trouvé le courage de le faire. Elles ont désigné Dayton Leroy Rogers comme étant cet homme. Mais leur histoire ne s'arrête pas là.
Les inspecteurs sont allés parler avec ces femmes. Et il y en avait bien une trentaine qui avaient eu Rogers comme client. Il ressortait clairement de ces entretiens que le pied était l'objet de ses fantasmes érotiques. Il aimait en particulier les voûtes plantaires très arquées. Il adorait ça. Il leur frottait les pieds, se masturbait dessus et c'est tout. $50 facilement gagné pour une prostituée.
Il achetait toujours des mignonnettes, les petites bouteilles qu'on trouve dans les avions, des mignonnettes de vodka. Et il achetait des petites bouteilles en plastique de jus d'orange. Il en buvait une partie, puis il versait de la vodka dedans et en buvait tout en conduisant et en offrait à sa passagère.
Rogers a ramassé les mêmes filles à de multiples occasions. Après avoir gagné leur confiance, il a voulu aller plus loin.
Plus tard, il a commencé à leur demander d'enlever leurs vêtements pour corser un peu les choses. Puis il en est arrivé à leur dire « Et si je t'attachais pendant que je fais ça ?» D'accord ? Et il a fini par en venir à jouer avec son couteau, à piquer, puis taillader.
En regroupant les informations sur les victimes et leur lieu d'origine, les enquêteurs commencent à se faire une idée de ce qu'ont vécu ces femmes entre les mains de Dayton Leroy Rogers. Il en a pourtant laissé vivre certaines. L'une d'elles, Carole, a posé une question très précise à la fin de son entretien avec le procureur Eglitis.
On allait partir quand, soudainement, elle nous a demandé si certaines victimes avaient eu leurs pieds coupés. Jusqu'à présent, on avait gardé le silence sur ce détail. Personne n'en avait parlé. Alors mes agents lui ont dit « Pourquoi vous demandez ça ?» Et elle a dit « Eh bien, il avait commencé à couper ma jambe. » Avec quoi ? Une scie à métaux. Et elle a montré sa jambe juste au-dessus de la cheville. Elle avait une vilaine cicatrice que le médecin légiste a vue. Elle pouvait correspondre à une coupure à la scie à métaux. Du coup, nous nous sommes demandé, et encore aujourd'hui, si ces victimes étaient vivantes au moment où il leur sciait le pied. Le cas de Carole Dunan nous fait penser que oui.
Ce témoignage direct apporte un nouvel éclairage sur les actes pervers du tueur sadique.
Non seulement ces femmes ont été assassinées, mais elles ont aussi été torturées. Pourquoi ? Parce que ça procurait un frisson sexuel à ce type.
Une question reste en suspens. Pourquoi Rogers a-t-il laissé vivre certaines de ces femmes ? L'histoire de Suzanne, une autre survivante, pourrait apporter des éléments de réponse.
Suzanne l'a côtoyée entre une vingtaine et une trentaine de fois. Elle était sa préférée jusqu'au jour où il l'a conduite à la forêt Molalla. Il a voulu lui couper les pieds avec un couteau. Elle était ligotée. Il a commencé à scier. Puis il a dit, « Pourquoi tu ne cries pas? Tu ne te débats pas? Parce que je suis en pleine nature. Personne ne va m'entendre crier. Finissons-en et tue-moi. » Voilà ce que Suzanne lui a dit. Et là, subitement, il a fait, « Oh, désolé, je ne voulais pas te faire ça. » Et il l'a ramenée à Portland. Elle est sortie de la voiture avec le sang qui gouttait sur ses chaussures.
Il éprouva un sentiment de pouvoir en laissant partir des femmes. Pour celles qu'il a assassinées, il a éprouvé le besoin de les tuer pour garder son pouvoir. Ça n'avait rien à voir avec ce qu'elle pouvait faire ou dire. C'était juste son choix, son pouvoir de décision. C'était vraiment pile ou face.
Février 1988. Dayton Leroy Rogers est jugé pour le meurtre de Jennifer Smith. Andreas Eglitis mène l'accusation.
Roger est venu à la barre. Il a dit, « C'est vrai, je suis un mauvais mari, un mauvais papa. Oui, je me rendais à Portland pour y trouver des prostituées. » Et au final, il a ajouté, « D'accord, je suis un type affreux, mais je ne mérite pas la peine de mort, juste pour avoir trompé ma femme avec des prostituées. »
Rogers reconnaît avoir embarqué Jennifer Smith, l'avoir amenée sur le parking et l'avoir attachée. Mais sa version sur la suite des événements est très différente.
Voilà sa version. Subitement, elle ouvre la boîte à gants et prend le couteau de cuisine que sa femme a mis là pour qu'il puisse couper le sandwich qu'elle lui a préparé. Donc elle prend le couteau, et là, imaginez un peu, cette femme, complètement nue, lui met le couteau sous la gorge et lui demande son argent. Elle tient le couteau. Lui réussit à attraper le manche qui dépasse de sa main et à tirer le couteau, ce qui occasionne les coupures à la main. Voilà sa défense.
En réalité, il essaie de noircir l'image de sa victime. C'est une travailleuse du sexe. Il sait que ça ne va pas jouer en sa faveur avec la mentalité de l'époque, mais il sent qu'il doit en faire plus pour retourner la situation. Alors, s'il la présente comme une voleuse, en plus d'être une prostituée, il pourra essayer de s'attirer la sympathie du jury.
Mais ça ne prend pas. Les preuves contre lui sont trop accablantes. Les blessures infligées à Jennifer parlent d'elle-même et le désignent comme un tueur sans pitié. Dayton Leroy Rogers est jugé coupable de meurtre avec circonstances aggravantes et il est condamné à la prison à vie. Charles Gates, le témoin qui a tenté de donner les premiers secours, n'oubliera jamais cette nuit d'août et la femme que Rogers a cruellement assassinée.
Je n'ai rien oublié et je n'oublierai jamais. Il fallait que j'intervienne, même si elle n'a pas survécu. Je continue d'entendre le bruit de son souffle. Alors que je lui faisais du bouche à bouche, je l'entends encore. Et ça fait plus de 30 ans. Je n'oublierai jamais.
Le 30 mars 1989 marque l'ouverture du procès pour les victimes de la forêt Molalla.
Il me fallait apporter la preuve pour 6 meurtres. La 7e victime était toujours non identifiée. 6 meurtres à prouver. Le jury a mis 6 heures à délibérer pour savoir s'il était le tueur.
Dayton Leroy Rogers est condamné à la peine de mort. Mais depuis, ses avocats se battent pour ramener la peine à perpétuité sans possibilité de liberté conditionnelle. Ils réussissent à éviter la peine de mort à 3 reprises. Le procureur général adjoint Scott Healy a mené l'accusation contre lui à 2 reprises.
Les charges retenues lors du procès initial de 1989 sont toujours restées les mêmes. Ce qui change, c'est la sentence à la peine de mort. À chaque fois, elle est annulée, et donc à chaque fois, il doit à nouveau être jugé.
À chaque nouveau procès, Rogers saisit sa chance pour influer sur la décision du jury.
Je suis désolé. Je suis vraiment désolé.
Je n'y vois pas l'expression sincère d'un remords ou de sa culpabilité ou d'une chose de ce genre. J'y vois plutôt une tentative de garder le contrôle du récit et de s'assurer la meilleure issue possible.
Il n'y a pas un seul jour où je ne lutte pas. Au plus profond de mon cœur et de mon âme.
Une fois de plus, il ne pense qu'à lui-même. Peu importe ce qu'il doit faire pour parvenir à satisfaire ses besoins. Alors non, rien de ce qu'il a dit au jury n'était sincère.
À chaque procès, le nouveau jury aboutit à la même décision qu'au premier procès. Dayton Leroy Rogers doit subir la peine de mort pour ses crimes.
Imaginez un peu, 48 jurés, 48 personnes issues de la population ont entendu l'énoncé des preuves dans cette affaire. Et les 48 ont dit non, cette personne mérite d'être condamnée à mort pour les actes qu'elle a commis.
En 2013, les technologies de la police scientifique réussissent là où les méthodes des années 80 avaient échoué. 26 ans après avoir été sauvagement assassiné, la dernière victime de la forêt Molalla est enfin identifiée. Il s'agit de Tonya Johnston, 18 ans. Mais pour la plupart des gens qui ont travaillé sur l'affaire, il existe forcément d'autres victimes.
Pourquoi je pense qu'il y a d'autres victimes ? Pour une bonne raison. Après son inculpation dans l'affaire de Jenny Smith, son avocat est venu au bureau du procureur pour nous faire cette offre. Voilà, le procès pour les victimes de Molalla va commencer. Si vous ne réclamez pas la peine de mort, il vous dira où sont les autres corps.
Il a même été trouvé des indices suggérant la possibilité d'autres victimes dans les cendres du poêle à bois de l'atelier de Rogers.
Si vous faites le calcul du nombre de pièces métalliques et des vêtements qui devaient correspondre, vous arrivez à un total bien supérieur à 8 personnes assassinées. Voilà pourquoi on sait qu'il y a plus de victimes.
Il était encore plus mauvais que tout ce qu'on pouvait imaginer. Quand la lumière a été faite, que tout a été révélé, on a pu voir à quel point il était monstrueux.
Je ne sais pas ce qu'ont fait tous les tueurs en série de la planète. Mais je peux vous dire qu'en voyant la cruauté dont il a fait preuve, il a bien sa place parmi les pires criminels.
Dayton Leroy Rogers est le seul à savoir combien il a tué de femmes, et il y a des chances pour qu'il emporte son secret dans la tombe. Sa condamnation à la peine de mort vient d'être renouvelée. On ne peut pas savoir si elle sera exécutée, mais une chose est sûre, il passera le reste de sa vie derrière les barreaux. Il a tué au moins 8 femmes alors qu'elles étaient très vulnérables. Après les avoir attachées, il les a torturées, mutilées, uniquement pour satisfaire ses fantasmes sexuels sadiques, ce qui fait de Dayton Leroy Rogers l'un des pires criminels au monde.